Bonjour et bienvenue sur le podcast de la sécurité privée, La Ligne Rouge.
Bonjour et bienvenue sur le blog de la sécurité privée, le podcast La Ligne Rouge. Aujourd'hui, j'ai monsieur Luc Guillemin, président de Securitas France depuis 5 ans maintenant, et président du GES depuis 2019. Vous avez été réélu récemment ?
Absolument, réélu fin de l'année dernière.
Fin de l'année dernière. Donc, on s'est organisé un petit entretien pour parler de cette revalorisation des métiers repères, de cette refonte, de la relation des salaires, et les points de blocage qu'il y a à droite à gauche et qu'on relève un peu partout sur les réseaux, les inquiétudes des agents. Tout le monde pense qu'il y a anguille sous roche, puisque c'est la première fois que des employeurs offrent sur un plateau comme ça une énorme augmentation de salaire. Alors du coup déjà, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, on passe de 31 métiers repères à 10 métiers repères, c'est ça ?
On va changer un peu les terminologies en fait. On ne va plus parler de métiers repères, mais de classes d'emploi. Et dans ces classes d'emploi, il y a 4 classes d'emploi pour les employés, 4 classes pour les agents de maîtrise et 3 classes d'emploi pour les cadres. Voilà. Et avant, il y avait 31 métiers repères dans toute la grille des métiers. Et ce qu'on a fait pour que les gens s'y retrouvent, c'est qu'on a fait une espèce de table de correspondance qui permet de dire chaque métier repère, les 31 sur lesquels doit correspondre le métier de tous les agents de sécurité en France, on va leur dire tel métier repère va dans telle classe d'emploi. Et donc, une fois qu'ils auront la classe d'emploi, ils auront évidemment le salaire associé à cette classe d'emploi. Enfin, le minimum en termes de rémunération.
Ils sachent un peu où ils en sont. Du coup, quelle différence vous faites entre des métiers repères et des classes d'emploi?
Les métiers repères étaient très spécifiques. Vous avez donc il y a des métiers qui concernent la sécurité incendie, d'autres plus la sûreté aéroportuaire, la télésurveillance, les métiers de surveillance humaine, de sécurité mobile. Donc c'était très très détaillé. On a essayé de regrouper ces métiers repères dans des classes d'emploi. Il y en a moins, donc plusieurs métiers repères vont aller dans une même classe d'emploi. L'idée qu'il y a derrière, c'est de dire, on s'aperçoit que les compétences requises pour faire ces métiers-là, et je ne parle pas seulement de la compétence métier pur, mais ça peut être un savoir-être, une façon d'interagir avec le client, l'environnement, qui fait qu'en fait, on a des qualités qui semblent similaires et nécessaires entre les métiers. Et donc, on les a mis dans les mêmes classes d'emploi pour faciliter en fait le fait de pouvoir évoluer aussi dans tous les métiers de la sécurité privée, l'intention étant aussi d'essayer de dessiner des plans de carrière et de dire quelqu'un qui rentre dans le métier, je crois que c'est un des reproches qu'on fait souvent dans l'histoire de la sécurité privée, c'est que vous rentrez dans le métier, alors quoi, 120, 130, et puis en fait vous restez dans votre métier toute votre vie. Et
moi, pas d'évolution, ça c'est vrai.
On trouve ça dommage, et l'idée c'est d'essayer de trouver des passerelles via l'acquisition de compétences complémentaires pour que les gens, quand ils rentrent dans notre métier, ils puissent évoluer au gré de l'acquisition de compétences, de leur expérience, des opportunités qui s'offrent à eux, pour un jour peut-être être sur des métiers beaucoup plus experts ou sur des postes d'encadrement, selon les évolutions souhaitées par chacun. Mais en tout cas, qu'on puisse donner cette perspective, parce que c'est évidemment très important de savoir à quel salaire on est embauché quand on rentre dans le métier de la sécurité privée. Mais je crois que c'est tout aussi important pour que les gens se projettent de se dire, mais dans 10 ans, je fais quoi? Et donc, de pouvoir créer ses passerelles et ses parcours, c'est quelque chose d'important.
Alors, moi, je suis assez sensible à cette nouvelle grille de classe d'emploi. Je trouve ça pertinent comme classe d'emploi. Et c'est vrai que, la première inquiétude qui remonte un peu des lecteurs, moi, je suis embauché en tant qu'agent de sécurité dans un magasin. J'ai une grille qui est imposée à l'employeur, par exemple, 140 ou 130 en fonction du poste. Et là, qui va définir à quelle classe d'emploi on fait référence? Est-ce que l'employeur, du coup, il aura totale liberté pour choisir sa classe d'emploi?
Alors, pas vraiment, parce que il y a eu tout un travail qui a été fait avec les organisations syndicales et patronales depuis un an et demi là-dessus, où on a collectivement essayé de décrire qu'est-ce qui faisait qu'on serait dans telle ou telle classe d'emploi. Donc, pour expliquer ce système, on appelle ça un système de classification des compétences. Donc en fait, on a défini 5 grandes familles de compétences, et pour chacune de ces familles, on a mis 7 niveaux. Et donc ça donne un certain nombre de points, de 1 à 7.
Par famille, il y a 7 niveaux par classe d'emploi.
Voilà. Et tout ça a été défini assez précisément. Et donc ensuite, on prend un métier, par exemple agent arrière-caisse, et on va nous dire, ce métier, il a tant de points sur chacune des 5 catégories. 5 critères classants. Et en fonction du nombre de points total obtenus, eh bien, ça positionne le métier dans une des classes d'emploi.
Oui, mais par exemple, moi, je suis actuellement au COEF, par exemple, 140 ARKS.
Ouais.
Quel va être donc mon équivalent donc, enfin, s'il y a un nouvel embauché, si cet accord est bien signé,
ouais.
Moi, je me fais embaucher à quel niveau, du coup?
Alors, on a fait toute une table de correspondance, au moins au démarrage. Donc là, les choses sont très claires. Si l'accord est signé par les partenaires sociaux, je pense qu'on en reparlera un peu après, mais la table de correspondance, elle a été clairement établie. Et donc, si je reprends votre exemple, c'était l'arrière-caisse, c'est ça?
Voilà, l'arrière-caisse, ouais.
Donc en fait, on a fait pour tous ces 31 métiers repères, on a une grille de correspondance qui vous dit, bah, si vous êtes arrière-caisse, votre future classe d'emploi, c'est agent expert. Et donc à cette classe d'emploi, on associe un salaire minimum de branche. Donc pour tout le monde, et c'est un peu ce qu'on a fait, je pense que vous avez vu la calculette que le GES a fait dans les
livres. Oui.
Et en fait, vous donnez votre métier repère actuel, et la calculette vous dit, bah, ce métier repère actuel, il est associé à une classe d'emploi, donc elle s'affiche, et cette classe d'emploi vous donne droit à un salaire minimum de la branche de temps. Et donc ainsi,
d'accord,
on peut dire à tout le monde...
Pour ceux qui sont actuellement en poste, mais par exemple, pour les un nouvel entrant. Par exemple, demain, Securitas fait une annonce d'emploi pour recruter un agent en magasin. Du coup, il va proposer quelle classe d'emploi?
La même que les classes d'emploi qu'on...
Agent de sécurité privée expert.
Exactement. Cette grille, elle va s'imposer pour tout ce métier arrière-caisse. On va dire, bah, les agents arrière-caisse, ils sont tous agents experts. On va pas pouvoir dire, il y en a qui sont pas experts et d'autres experts. S'ils ont le statut arrière-caisse, s'ils sont sur le métier repère arrière-caisse, ça veut dire qu'ils ont ce niveau-là.
Mais donc, là, moi, je suis figé. J'ai eu mon TSP APS il y a un mois, donc je serai embauché en tant que niveau expert. Et si ça fait 10 ans que je suis dans la sécurité,
alors,
je serai aussi au niveau expert?
Tout dépend, parce que là, on fait une photo pour passer d'un état actuel,
oui, bien sûr,
à la cible. Mais demain, on peut imaginer que quand on va embaucher des nouveaux entrants qui sont tout juste formés sur le métier, on va peut-être pas les mettre arrière-caisse. Parce que un des défauts qu'il y avait dans la grille des métiers repères, c'est que vous avez des métiers qui étaient sur des COEF très bas, mais qui nécessitaient une forte qualification. Et c'est ça qu'on vient corriger avec la nouvelle règle, parce que, par exemple, pour arrière-caisse, si on les a positionnés agents experts, c'est qu'on a collectivement, entre organisations patronales et syndicales, conclu que ce métier d'arrière-caisse, il nécessitait une expertise élevée. Et donc, à compétences élevées, salaire plus élevé. Et donc, soit demain, quelqu'un qui veut rentrer dans les métiers de sécurité privée et qui a les compétences pour être agent arrière-caisse, il rentrera directement au niveau agent expert. Si maintenant on dit cette personne, il faut encore la former, et donc on va plutôt la positionner sur un métier qui est plus bas dans la grille, et puis un jour, elle sera formée,
elle
aura une qualification, et elle évoluera agent expert, et elle pourra faire le métier d'arrière-caisse.
Du coup, c'est vous, donc c'est l'employeur qui décidera, ben voilà, j'estime que tu as passé il y a deux mois ton TFPAPS, je ne peux pas te positionner sur un ARKS parce que ça nécessite une compétence d'expert. Par contre, je peux te mettre sur un chantier simple.
Exactement. Où
il n'y a pas d'interaction avec le public.
Exactement. Par exemple.
Ben, du coup, c'est un peu dommage parce que du coup, les deux auront la même formation de base.
Peut-être, mais c'est aussi l'idée de dire, il y a une formation de base, mais on reconnaît, et c'est peut-être un des défauts historiques de notre branche, c'est on a mis des gens qui n'avaient peut-être pas la formation et l'expertise requises pour exercer le métier qu'ils exerçaient. Ça crée aussi des difficultés, à la fois pour l'agent, qui se retrouve face à des situations où il n'est peut-être pas suffisamment aguerri pour y faire face, le client qui comprend pas pourquoi l'agent il rend pas le service à temps. Et donc c'est ça qu'on essaye de corriger en disant, on va être plus clair sur, quand on rentre dans un métier, est-ce qu'on peut raisonnablement dire qu'au bout de 175 heures de formation, on est déjà expert? J'en suis pas sûr. Mais par contre, on sera clair sur, voilà les modules de compétences complémentaires qu'il faut acquérir pour arriver à ce métier-là. Et donc, ça donnera, je pense, des perspectives plutôt claires aux gens pour dire, bah, ok, je rentre, je vais me former sur des sites peut-être ou des missions plutôt simples, j'apprends mon métier, et ensuite, une fois que j'ai un peu plus d'expertise, je peux prétendre à un métier différent avec une rémunération différente. Et le lien qui est important, c'est de dire, on essaye de faire un lien assez direct entre compétences et salaire. Alors qu'aujourd'hui, ce lien, c'est coefficient salaire.
Oui, en fait, ça nous fait une grille de SMIC, on va dire, en sécurité privée, où en fait, un salaire minimum pour un ARKS, c'est quoi, 140, et puis c'est tout.
Et voilà. Et
quasiment par rapport à cette classification d'emploi, ça permet une évolution, enfin, d'avoir une perspective d'évolution.
Et surtout, ce qu'on veut essayer de montrer, c'est, on voit bien la tendance qu'il y a eu, on se met en perspective sur les 10-15 dernières années, quand vous regardez les effectifs qu'il y a dans la branche, et où ils sont positionnés, sur quels métiers repères ils sont positionnés, la plupart des agences sont sur les premiers métiers repères, agents de sécurité confirmés, COEF 130, terminé. Et c'est dommage, parce que du coup, on ne promeut pas l'expertise et la différence sur l'ensemble de la grille de ces métiers repères, et donc on ne donne pas tellement d'espoir à nos agents pour dire « vous pouvez évoluer dans votre carrière ». Et donc là, c'est ce qu'on essaye de proposer avec ce système de classification basé sur les compétences.
D'ailleurs, je voulais relever aussi le côté chef d'équipe, du coup, qui serait agent de maîtrise de premier niveau, par exemple, pour les premiers chefs d'équipe. Et actuellement, effectivement, on a un chef d'équipe en magasin qui est COEF 140, il n'est même pas agent de maîtrise. Voilà. Il faut taper que dans le SIAP pour être agent de maîtrise. Et là, on passerait directement sur l'agent de maîtrise pour un chef d'équipe ou un chef de poste.
Et donc,
ça, c'est une belle évolution, l'encadrement.
Et ce que ça veut dire, et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes dans la profession qui s'interrogent sur pourquoi tel métier a tel niveau d'augmentation quand tel autre métier a une augmentation inférieure ou complètement différente. En fait, la clé de lecture, c'est cet écart entre les anciens coefficients de la grille et la véritable compétence exercée sur les métiers. Il y a certains métiers qui sont au bon coefficient, historiquement, et donc on a déjà, quelque part, un lien assez correct entre compétence exercée et salaire. Et puis, on a d'autres métiers où ça nécessite une expertise forte, et pourtant, ils étaient sur les premiers coefficients de la grille, et donc le salaire n'était pas en adéquation. Et donc pour ceux-là, ceux qui avaient compétences fortes, mais coefficients bas, c'est évidemment ceux qui auront, à travers ce système, l'augmentation de salaire la plus importante. D'accord. À l'inverse, des gens qui sont sur des métiers avec une adéquation entre l'expertise exercée, le niveau d'expertise et le salaire, donc un coefficient peut-être 150, 160, voire AM1 déjà, avec peut-être un niveau d'expertise pas forcément important, mais en tout cas déjà valorisé à travers le classement dans les métiers repères, et bien ces personnes-là ont peut-être un pourcentage d'augmentation inférieur. C'est comme ça que... Mais clairement, la logique, c'est de dire, si la compétence exercée est forte, alors la rémunération doit être plus forte. C'est ça la logique de tout ce système de classification qu'on met en place.
Du coup, vous avez fait un rapport entre le... On va à RKS et... Enfin, on reprend le même exemple, c'est le plus courant... dans nos métiers, avec agent de sécurité expert, mais est-ce que donc c'est bien l'employeur qui va décider de cette classe d'emploi individuellement, personnellement, pour dire, moi pour un magasin Casino, ou un magasin Lidl, j'ai besoin d'un agent de sécurité qualifié, et puis un Carrefour, j'ai besoin d'un agent expert.
Alors après, il y aura forcément une négociation entre le client et le prestataire de sécurité pour savoir comment on positionne, quel est le niveau de la case d'emploi qu'on va choisir. Mais ça doit être... il y a une grille de lecture qui est très claire, qui dit que le métier à RKS, qui est clairement défini dans les métiers repères, il a tant de points dans le système de classification, et donc il est classé dans la classe d'emploi agent expert. Le client, il ne pourra pas contourner ça en disant « moi, je vais embaucher des arrière-RKS qui ne sont pas agents experts ». Ça ne fonctionnera pas d'abord, parce qu'il ne les trouvera pas. Il ne les trouvera pas, parce que tous les arrière-RKS qui savent faire, ils vont dire « non, mais attendez, moi, je veux être agent expert ». Et donc, l'entreprise qui ne les prend pas à ce poste, à ce niveau-là, je pense qu'évidemment, ils iront voir une autre entreprise qui sera capable de les payer à ce niveau-là.
Ben, ça restera de...
Le système va se réguler.
La négociation, il va se réguler tout seul.
Oui, mais aujourd'hui, où on manque d'agents de sécurité privés partout et on a le potentiel d'embaucher 20 000 de plus en France, si l'employeur décide de dire « moi, je ne vais pas suivre les recommandations de cette grille et puis je vais prendre mes agents à un niveau plus bas », moi, je pense que les agents... assez naturellement, il dira, attendez, l'entreprise à côté, elle est prête à me payer plus, je ne vais pas hésiter longtemps à changer d'employeur. Et donc, soit, employeur, vous avez la capacité à négocier avec votre client le fait que, finalement, votre client vous rémunère suffisamment pour la classe d'emploi considérée, soit vous n'arrivez pas à cette négo, et de toute façon, vous n'aurez pas les agents. Ils vont tous partir.
Oui, bien, en fait, ça circule tout seul. Mais là, moi, je vois aussi dans des secteurs, on est déjà, sur toute la France, en pension pour le recrutement des agents de sécurité. Particulièrement, je connais bien sur la frontière suisse.
C'est une zone difficile. Oui.
Avec l'attrait de la Suisse. Mm. Et les entreprises sont elles-mêmes régulées en disant, moi, un agent de sécurité classique, c'est quoi 160, quoi 170, elles sont déjà régulées du coup.
Alors,
ça appartient mieux cette classe d'emploi, parce que déjà que les métiers européens, les entreprises ont déjà, on va dire, ce levier pour dire, J'ai un minimum quoi 140, ouais. Mais je peux te mettre à quoi 170.
Certes, mais il y a peu de contraintes liées à ça. Effectivement, vous avez pris l'exemple de la frontière suisse, qui est une zone en extrême tension depuis très longtemps, du fait de l'attractivité des salaires en Suisse. Mais c'est une zone très particulière. Et donc les entreprises, voilà. Devant cette contrainte, elles ont effectivement joué sur les coefficients en acceptant de valoriser un coefficient supérieur le métier exercé. Là, on prend le problème dans l'autre sens. Hein. On dit, attendez, il y a un métier qui est exercé et celui-là, il a une compétence associée et cette compétence, elle a un prix. Et je pense que notre intention et l'espoir qu'on a à travers la mise en place de ce système, c'est qu'au lieu d'avoir 80% de la profession sur 2-3 coefficients, en fait, on va étaler beaucoup plus l'ensemble de la profession sur l'ensemble des métiers et avoir une vraie photo et faire payer finalement, parce qu'in fine, c'est ça, c'est faire payer le bon prix au client pour la prestation de sécurité qui est rendue par les agents qui l'exercent au quotidien.
Si je dois en faire une synthèse, excusez-moi, si je dois faire une synthèse, c'est-à-dire que donc les syndicats, notre syndicat, préfère du coup avoir une grille liée à des compétences uniquement et pas liée à un métier.
Oui, il y a des compétences parce que le métier c'est une chose, mais ça suffit pas pour garantir un salaire minimum aux agents. Et en travaillant sur les compétences, on sera bien plus objectif sur la mission que confie le client au prestataire et donc à l'agent. Elle peut clairement se mesurer dans cette grille de classification de compétences. Et donc on arrive naturellement à une valorisation qui fait que si vous voulez trouver tout simplement des agents prêts à venir travailler sur ce site, vous devrez respecter cette grille. Sinon, les agents, ils iront travailler ailleurs.
Et après, on ne prend pas la main d'œuvre pour assurer les missions. Et effectivement, puis, en prenant notre exemple en événementiel, par exemple, ben, c'est quand même assez dingue qu'un agent de sécurité qui a 10 ans d'expérience en événementiel, eh ben, il va être au COEF 130, 140, alors qu'une personne qui sort d'un TFPPS pourrait avoir le même poste que lui et au même salaire.
Exactement.
Alors que du coup, avec votre classification d'emploi, il ne pourrait pas avoir le même salaire.
Je pense que ça va améliorer la situation et reconnaître la compétence exercée. Et je pense que c'est très important si on veut emmener l'ensemble de notre métier et de notre branche vers des prestations à plus forte valeur ajoutée. On a aussi l'enjeu d'attirer plus de monde dans notre métier. On a des besoins, on parle à peu près de 20 000 postes vacants aujourd'hui en France. Il faut qu'on trouve des personnes qui ont envie de rejoindre le métier de sécurité privée. Moi, quand je vais à la rencontre des agents sur le terrain, je trouve des gens passionnés qui sont hyper investis sur leur mission. Et donc, c'est un métier super intéressant. Il faut qu'on le valorise à sa juste valeur. C'est un mouvement garanti qui n'est pas simple. Oui. Et il faut emmener l'ensemble des employeurs aussi dans ce mouvement. Parce que c'est les entreprises qui vont devoir financer cette augmentation et qui prennent évidemment un risque quelque part. Et moi, le premier, en tant que patron de Securitas, il va falloir qu'on aille voir nos clients pour leur expliquer ça, qu'est-ce qui va se passer, cette revalorisation des salaires dans le prix. Parce que aucune entreprise, je pense, n'aura la capacité à absorber seule cette revalorisation des salaires sans en parler d'une façon ou d'une autre à ses clients.
Ah, bon, d'accord, ouais.
On a un travail à mener dans les, certainement, si cet accord, encore une fois, est validé, on aura environ 9 mois pour expliquer, convaincre l'ensemble des donneurs d'ordre de ce que ça représente en termes d'impact et donc d'avoir des discussions entre donneurs d'ordre et prestataires pour recaler certainement.
C'est vrai que j'ai souvent entendu le CDSE dire que donc les directeurs, les donneurs d'ordre, association, disent qu'ils sont prêts à payer plus pour avoir plus de compétences. Mais est-ce que c'est vrai du coup?
Alors, le problème, c'est que c'est l'histoire de l'œuf et la poule. Hein. Par où on commence? C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le jour où l'ensemble des agents de sécurité en France seront plus compétents, on les paiera plus cher. Mais ça, on n'y arrivera jamais. Parce que ça voudrait dire que les entreprises de sécurité privée investissent massivement, par exemple, en formation, beaucoup plus qu'elles le font aujourd'hui, à fond perdu, c'est-à-dire que le client n'est pas prêt à payer ça, donc c'est bien les entreprises qui vont finalement le payer. Et puis, avec l'espoir que dans 3-4 ans, on puisse expliquer que maintenant, on a fait monter tout le monde en compétence, et donc le prix doit être valorisé à la hausse. Mais compte tenu des niveaux de rentabilité des entreprises de sécurité privée dans notre secteur, tout le monde mettra la clé sous la porte et aura déposé le bilan avant qu'on ait pu avoir cette discussion avec les clients. Donc la seule façon de faire, c'est de le prendre dans l'autre sens et de dire, on doit revaloriser le métier, on doit reconnaître à un moment que le métier qui est exercé depuis des années est sous-payé. Et donc c'est la proposition aujourd'hui que porte le GES sur la table de négociation en disant on revalorise en moyenne les salaires de 10% à la hausse. Ça, quelque part, c'est reconnaître que la compétence exercée depuis longtemps, en fait, elle vaut plus cher. Et les collaborateurs qui travaillent jour et nuit sur les sites, ils ont droit à cette rémunération. Et ça nous donne l'opportunité de recruter
bien sûr
des nouveaux profils, des gens qui ne pensaient pas venir dans la sécurité privée et qui vont nous rejoindre et qui vont progressivement progresser. Et ce mouvement-là fera qu'on pourra certainement tirer vers le haut la profession et avoir des prestations qui seront du coup d'une plus grande valeur ajoutée. Et donc, les clients finiront par dire « oui, je paye le bon prix pour cette prestation ». Mais c'est sûr que, et c'est un reproche que j'entends souvent du CDSE, et on discute régulièrement avec eux aussi, c'est de dire « le jour où les salaires augmentent de 10%, moi, l'agent qui vient demain matin, c'est le même. Évidemment que son niveau de compétence ne s'est pas transformé dans la nuit, mais voilà, c'est pas progressif. »
Il n'est pas trilingue, les anciens du
bien sûr.
Les anciens du GIGN.
Mais c'est l'effort que, globalement, toute la chaîne doit faire, les clients, les prestataires, pour qu'on arrive collectivement à faire progresser notre branche.
Certains, beaucoup de monde sur les réseaux demandent et pourquoi dans cet accord, on ne cale pas les coefficients sur le SMIC. Moi, j'ai entendu déjà la réponse, il me semble, d'une spécialiste lors du congrès du GES à Annecy. Donc, j'aimerais vous entendre le dire.
Alors,
pourquoi et pas le caler ?
Alors, techniquement, c'est interdit. On peut pas dire qu'on a une grille de salaire qui est calée, indexée sur le SMIC. La loi en France ne nous autorise pas à faire ça. Donc on a beau essayer de tourner le truc dans tous les sens, ça marche pas. On a eu ces discussions notamment avec quelques syndicats qui essayent de trouver, et c'est des discussions qui sont constructives, hein, je veux dire, nous on n'a pas d'opposition, et ce serait presque même, entre guillemets, plus simple, hein, de dire, ok, le SMIC augmente de 4%, les salaires augmentent de 4%, on n'en parle plus, on passe à autre chose. On n'a pas le droit de faire ça en France. Voilà. Donc à un moment,
donc voilà, c'est interdit.
Il faut se faire un peu confiance. Il faut se faire confiance et dire oui, il faut qu'on revienne négocier ensemble et trouver
par rapport à l'augmentation,
le compromis qui va bien par rapport à une situation où depuis on peut pas se parler en année maintenant, mais au moins 18 mois, on est face à une situation où l'inflation est quand même quelque chose qui est nouveau et qui impacte évidemment le quotidien de toutes nos équipes sur le terrain.
Donc il y a aussi certains syndicats qui regrettent qu'il y ait la perte du maintien des écarts entre coefficients. En fait, il y a un écart entre coefs, en 40, 50, et indique que dans ces classes d'emploi, il n'y a plus cet écart.
Exact.
C'est vrai,
C'est vrai, les fameux écarts types qui faisaient que quand on augmentait le coef 130 de 3%, on augmentait toute la grille mécaniquement de 3%. Cette règle-là, elle n'est plus dans notre proposition. Et je pense que cette souplesse est importante dans l'avenir, parce que en fonction des contextes économiques et des contextes de notre branche, on pourra être une année peut-être amené à dire on fait un effort particulier sur telle position de la grille, mais on n'a pas la capacité à faire le même effort sur tous les coefficients de la grille ou toutes les nouvelles classes d'emploi. Et donc on veut retrouver cette souplesse.
Du coup, chaque classe d'emploi est, on va dire, autonome.
Et on pourrait très bien arriver à une situation demain où on dit, dans une future négociation des salaires, on va faire un effort peut-être particulier sur la première classe d'emploi parce que on a des difficultés pour trouver des gens qui rentrent dans nos métiers, mais on n'a peut-être pas trop de difficultés à conserver les gens qui sont déjà très experts. Et donc, peut-être qu'on peut avoir des stratégies différentes entre classes d'emploi en termes d'augmentation de salaire. On pourrait très bien avoir une année où on dit non, la difficulté, c'est plutôt de garder les experts et de les faire monter. Et donc, on va avoir un accent particulier sur les tranches d'agents experts, agents référents, plutôt que sur la première classe d'emploi. Et donc, on veut retrouver cette souplesse parce que on voit bien que les contextes économiques et notre environnement, il évolue en permanence. Qui sait qui, il y a 4 ans, pouvait prédire la crise sanitaire, la situation d'inflation qu'on connaît aujourd'hui? On ne sait pas. Et on veut se redonner cette souplesse et cette capacité à adapter, en fait, nos négociations annuelles à une situation donnée.
C'est dommage, par exemple, les 7,5% d'augmentation, qui est un très bel effort au 1er janvier 2023, a été un petit peu, on va dire, absorbé. En une année, on a eu 6,6%, je crois, d'augmentation du SMIC.
Bien sûr.
Et du coup, c'est un peu annulé, mais bon, après, c'est les longueurs des...
On sait, on va prendre cet exemple, et je pense que c'est un exemple qui va parler beaucoup à nos agents de sécurité. On sait très bien qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques de l'INSEE, l'inflation en France en 2022, c'est 5,2%. Est-ce que vraiment l'inflation perçue par quelqu'un qui a une rémunération au SMIC, c'est 5,2%, on sait tous que c'est pas vrai. c'est certainement bien plus.
Bien sûr, ouais.
Par contre, l'inflation
personnelle,
quelqu'un qui a un salaire qui est bien plus haut, eh ben, c'est peut-être un peu moins. Et donc, si on avait cette capacité à réguler, peut-être qu'on aurait fait un effort particulier supplémentaire sur les premiers coefficients pour faire un effort un peu moins important sur les coefficients élevés de la grille. Et on aurait pu
absorber plus salaire,
les effets et la situation qui est la situation actuelle d'inflation. Peut-être que demain, on aura une capacité à recruter très forte et qu'on se dira, bon, c'est peut-être pas la peine de revaloriser le salaire d'entrée dans la profession, on va plutôt travailler nos classes d'experts, parce que c'est ces métiers-là qu'on veut, et on veut essayer d'attirer des candidats qui ont envie d'évoluer, d'acquérir des nouvelles compétences, pour un salaire, peut-être un delta de salaire qui sera plus attractif, et donc on poussera plus sur les classes d'emploi agents experts, agents référents.
Bien sûr.
Les contextes peuvent évoluer, je pense que cette souplesse-là, elle est intéressante à l'échelle de la branche, et qu'on pourra, dans les futures négociations, avoir des discussions assez constructives avec, entre organisations patronales et salariales sur ces.
Alors, donc là, je comprends un peu mieux. Donc, enfin, c'est. Enfin, là, du coup, ça se discute encore là-dessus ou...
Alors, la situation, c'est qu'on est toujours en discussion avec l'ensemble des organisations syndicales. On a une prochaine date qui est le 10 mars, où il y a ce qu'on appelle une CPPNI. Alors, c'est un peu compliqué, mais bon, après, c'est une réunion importante où on se retrouve autour de la table les organisations syndicales, patronales et l'État.
Discuter de cette revalorisation.
Et c'est lors de ces réunions que doit ou pas se concrétiser cet accord. Donc, en fait, on a une version qui est quasi définitive, qui est aujourd'hui dans les mains des organisations syndicales. On a encore quelques discussions d'ajustement. On a un projet qui peut encore s'ajuster à la marge.
D'accord.
Et on a, nous, dit GES avec l'ensemble des organisations patronales que maintenant, il fallait qu'on arrive à une conclusion. Soit on était d'accord et on signait cet accord, soit on n'est pas d'accord. Et puis, on va passer à autre chose, parce que ça fait maintenant plus de deux ans qu'on est sur ce sujet-là.
C'est beaucoup de travail. Quoi.
Tout le monde s'est beaucoup investi.
L'un des freins majeurs que j'ai vu et entendu, c'est cette ancienneté.
Ouais.
Donc, c'est un point, c'est le fer de lance contre cette réforme.
Ouais.
Alors, effectivement, quand j'ai vu cette proposition d'accord, donc il n'y a plus que trois niveaux, je crois, de prime d'ancienneté. Du coup, c'était, alors je ne sais plus, c'est en quelle année, 4 ans
3 ans.
3 ans, 5 ans, 10 ans.
C'est ça.
Voilà, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 2, 3 et 4%.
C'est ça. Donc,
2% pour 3 ans, 3% pour 5 ans, ouais. Et 4% pour 10 ans. Et effectivement, actuellement, il y a 5 niveaux de prime d'ancienneté qui va de 4 ans à plus de 15 ans.
Exact.
Moi, j'ai fait un petit ratio pour savoir où était, vous savez, par rapport au rapport de branche de notre profession, pour un peu où se situent les niveaux d'ancienneté. Et effectivement, 43% des effectifs d'agents de sécurité en France ont moins de 4 ans d'ancienneté. Et 57% ont plus de 4 ans. Donc, est-ce que pour eux, c'est comme d'ailleurs je vais vous lire un petit message que j'ai reçu d'un lecteur. Donc, de la poudre aux yeux, car cela passe par la suppression de la prime d'ancienneté. Et aujourd'hui, c'est la seule chose qui garantit un salaire au-dessus du SMIC. Augmenter artificiellement un salaire tout en sachant qu'avec le temps, ce dernier sera bouffé par le SMIC. Quel est l'intérêt? Aucun. Point d'exclamation. C'est son commentaire. Donc effectivement, donc s'il n'y a plus. Là, on est quasiment à 12% de prime d'ancienneté pour ceux qui ont plus de 15 ans d'ancienneté. Mais bon, c'est quand même un minimum. Il n'y a que 9% de la totalité des agents qui sont à plus de 15 ans d'ancienneté.
Alors, d'abord, je pense que c'est important de rappeler, est-ce que oui ou non, il y aura une prime d'ancienneté? Donc oui, donc il n'y a pas de suppression de prime d'ancienneté. Maintenant, je sais très bien d'où viennent ces reproches. C'est que dans la première version du projet qu'on a mis sur la table l'été dernier, il y avait bien la suppression de l'ancienneté. Depuis, on a beaucoup discuté avec les organisations syndicales et elles nous ont convaincus qu'il fallait remettre une prime d'ancienneté dans le dispositif. Donc, dans la dernière version qui est aujourd'hui à la signature, il y a bien, comme vous venez de l'expliquer, la prime d'ancienneté avec un palier à 3 ans, 2%, 5 ans, etc. 2, 3 et 4%.
3% à 5 ans et 4% au bout de 10 ans.
Au bout de 10 ans. Alors évidemment, c'est pas ce qu'il y avait avant puisqu'on pouvait aller jusqu'à 12% au bout de 15 ans. Là où il faut être très clair, c'est que la prime d'ancienneté que les collaborateurs ont aujourd'hui, qui est un certain montant en euros sur leur salaire mensuel, cette valeur en euros, ils la conserveront. On a prévu un mécanisme, alors qui est un peu compliqué à expliquer, mais le principe, c'est que si vous aviez 70 euros de prime d'ancienneté, tous les mois, demain, vous aurez toujours ces 70 euros. Que vous ayez 15 ans d'ancienneté, 25 ans d'ancienneté ou 8 ans d'ancienneté, vous conserverez ces 70 euros. Et comment ça va se passer? Ben, vous aurez deux montants. Un premier montant qui sera la prime d'ancienneté sur le nouveau système. Donc évidemment, elle sera peut-être inférieure à celle que vous aviez avant. Donc vous aviez 70 euros, peut-être que la nouvelle prime d'ancienneté, je lance un chiffre en l'air, c'est 30 euros. Et bien cette différence entre 70 euros et 30 euros, donc 40 euros, on va vous le conserver sur ce qu'on appelle une prime d'avantage acquis, que vous garderez tout le temps où vous serez dans votre entreprise. Et elle sera figée en euros. Personne ne pourra y toucher. Vous avez, et donc c'est la façon qu'on a trouvée pour que personne soit lésé dans le nouveau système, et que on puisse du coup afficher clairement, et c'est vraiment ce qui va se passer, que 100% des collaborateurs de la branche conserveront la valeur de leur prime d'ancienneté en euros en basculant dans le nouveau système. Donc plus personne ne perd la prime.
Je vais vous donner un exemple. Alors moi, j'ai par exemple, j'ai 10 ans d'ancienneté.
Ouais.
J'ai 8% du coup de prime d'ancienneté.
Mm-hmm.
Voilà. Donc je suis chez Securitas, par exemple.
Par exemple.
Ces 8% du coup seront transformés. Enfin, il y aura toujours une prime d'ancienneté, mais moindre.
À 3%.
Elle est sur d'accord.
Mm-hmm.
Par contre, ben moi, ben il y aura 4%, on va dire, de prime individuelle que pour moi. Enfin, c'est-à-dire que ce sera aussi au cas par cas, donc moi, je ne perds pas d'argent.
Exactement. Vous ne perdrez pas d'argent, et ce calcul, alors, si on rentre un peu dans la technique, ça se fait pas en pourcentage, mais en valeur absolue, c'est-à-dire en euros. Et donc, il faudra dire, OK, c'est quoi l'écart entre l'ancienne prime et la nouvelle prime? Et cette valeur en euros, vous l'aurez acquise, c'est ce qu'on appelle la prime d'avantage acquis, puisque vous l'aviez avant, vous la conservez, et on l'a...
Donc, tant que je suis chez Securitas, j'aurai ces 100 euros...
Oui.
Que ce soit en deux lignes ou en une ligne,
exactement.
Il y a toujours ces 100 euros de prime d'ancienneté. Et du coup, par contre, ça va être gelé.
Alors attention, dans votre exemple, 8 ans d'ancienneté, ben, quand vous atteindrez 10 ans, ben, votre prime elle va augmenter un petit peu. Vous allez passer de 3% à 4%. Et donc, vous atteindrez le cran supérieur, et donc vous aurez un petit plus de prime d'ancienneté.
Ah d'accord, ok.
Puisque vous atteindrez 10 ans dans le nouveau système. Donc vous allez gratter 1%. Voilà.
Mais
sans qu'on touche
l'augmentation. L'augmentation sera sur la première ligne, c'est-à-dire la...
Exactement. Et on conservera l'écart.
Il y aura toujours la ligne
figée au départ. Admettons que ça fasse 40 euros. Vous les gardez. Et c'est votre prime d'ancienneté qui augmentera un petit peu, 1% de plus, quand vous atteindrez 10 ans d'ancienneté. Voilà. Donc,
d'accord.
Le mécanisme de l'ancienneté, tel qu'on le définit dans le nouvel accord, 2%, 3%, 4%, en fonction de 3 ans, 5 ans, 10 ans, ce mécanisme s'appliquera à tout le monde. Et je vous fais remarquer que quand on a 3 ans d'ancienneté, aujourd'hui c'est 0% de prime d'ancienneté. Dans le nouveau système, les personnes auront 2%. Donc pour tous ceux, entre guillemets, qui ont entre 3 et 4 ans d'ancienneté dans la branche, en plus de la revalorisation de leur salaire, ils vont avoir un petit bonus supplémentaire qui vont gagner 2% de prime d'ancienneté.
Alors, et en plus, ceux qui font partie de cette catégorie, donc moins de 4 ans, c'est quasiment, donc par rapport à un rapport de la branche, 30% des effectifs en sécurité.
Alors, attention,
4 ans. 5 ans, oui.
Je précise, hein, c'est ceux qui ont entre 3 et 4 ans. Donc 30%, je pense que c'est qui ont entre 0 et 4 ans.
Alors on va dire ceux qui ont 5, d'accord, donc c'est une partie des 30%.
C'est une petite, c'est une partie des 30% qui donc, avant, ils avaient leur début de prime d'ancienneté au bout de 4 ans, mais ça va être avancé d'un an, et donc ça sera au bout de 3 ans. Voilà.
Ça va essayer de fidéliser un petit peu plus rapidement.
L'idée, c'est aussi, exactement, c'est de dire, la logique, pourquoi on a fait ça? C'est de se dire, ok, quelqu'un qui rentre dans le métier, il arrive, il fait ses premières années, il apprend. Est-ce qu'il a la capacité à dire, tiens, au bout de 3 ans, je suis déjà un expert, je peux monter dans la grille des classes d'emploi? Pas sûr. Et donc, pour le fidéliser, on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir commencer à revaloriser son salaire au titre qu'il avait déjà passé 3 ans dans la branche. Voilà. Et puis aujourd'hui, on sait la difficulté de stabilisation de l'effectif dans la branche, c'est qu'on a beaucoup de gens qui arrivent, qui se forment et qui très vite s'en vont sur d'autres métiers et quittent la branche de sécurité privée.
Il y a
aussi une logique de dire si on veut les conserver, il faut peut-être valoriser cette ancienneté un peu plus tôt que ce qu'on faisait.
D'accord, dès le départ. Et beaucoup de monde pense que il y a anguille sous roche, puisque pourquoi est-ce qu'une des syndicats patronaux veulent autant faire accepter cet accord de revalorisation. C'est quoi l'intérêt des entreprises?
Alors vous savez, il faut que tout le monde se rende compte de l'effort très significatif que font les entreprises.
En fait, tout le monde pense qu'il y a cet effort, il y a quelque chose se cache ou se trame.
Mais je pense qu'il faut. Non. Et je pense que ça, c'est le rôle du GES notamment, et qui pousse très fort pour cet accord, d'accompagner l'ensemble des chefs d'entreprise dans leur capacité à expliquer aux clients ce que ça veut dire que ce nouveau système de classification. Et donc ça, c'est vraiment la mission sur laquelle va s'attacher le GES dans les mois qui viennent, si cet accord est signé, parce qu'il va falloir aider toutes les chefs d'entreprise à passer ce cap qui va être compliqué. Hein. Et donc il y a pas.
Pas donner un ordre,
il faut
de rallonger.
Il faut arrêter de penser qu'il y a un piège dans ce système et que en fait les entreprises ne vont pas débourser un centime de plus. C'est pas vrai. Les entreprises vont voir leur masse salariale augmenter de 15% minimum, entre 15 et 20%. C'est ça l'effet. C'est gigantesque. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui on recrute plus dans les métiers de sécurité. Qui c'est qui veut devenir agent de sécurité en France? Et ça c'est notre grand problème. Il y a des besoins de sécurité très forts dans ce pays. On a besoin de la sécurité privée. Alors, les Jeux Olympiques, c'est un exemple, certes ponctuel, mais c'est un exemple. Mais au-delà de cet effet un peu ponctuel, tous les jours, on a du mal à couvrir l'ensemble des prestations que nous réclament nos clients. Et quand on a des clients qui viennent nous voir pour dire « j'ai une prestation ponctuelle supplémentaire, j'ai besoin de tant d'agents », regardez la sécurité événementielle. On n'arrive plus à faire la sécurité privée dans les stades tous les week-ends, parce qu'on ne trouve plus les agents. Et donc, il faut bien faire quelque chose pour revaloriser le métier. Et donc, c'est cet effort qu'on fait qui est très important de revalorisation des salaires, qui profitera à aux 180 000 agents de sécurité en France qui sont aujourd'hui dans le métier, et tant mieux pour eux, et qui, on l'espère, attirera de nouveaux candidats au métier de sécurité privée. Voilà, c'est ça le pari qu'on fait. C'est un pari évidemment très important. Et là-dessus, je veux être clair, et je pense que si vous interrogez des chefs d'entreprise, vous verrez que ils sont pas très sereins face à ce qui s'approche, parce que ça va être un exercice très compliqué pour nous que d'aller expliquer à l'ensemble de nos clients ce que ça veut dire en termes de tarifs pour l'année 2024. Donc c'est évidemment un pari. Moi, avec l'ensemble du GES et d'ailleurs des autres organisations patronales, je pense qu'on est convaincu que c'est l'effort qu'il faut faire pour arriver à faire progresser l'ensemble de notre branche. Et vous savez, nos concurrents, ils s'appellent pas, mes concurrents ne s'appellent pas Ceris, Fiducial ou d'autres. Mes concurrents, c'est les autres branches d'activité, la branche de la propreté ou d'autres branches qui sont dans les mêmes situations que nous en disant
oui, que sans agence, c'est plus d'affaires.
Attractif. Voilà. Et donc nous, on fait un effort qu'on estime être particulièrement important. Mais qui est nécessaire,
bien sûr, ouais.
Compte tenu, l'ensemble de nos équipes, elles font pas n'importe quel métier. Quoi. On est une profession réglementée, on est un métier particulier, et le ministre de l'Intérieur l'a dit quand on était à Annecy en congrès, hein, nous sommes la quatrième force après les forces de sécurité intérieure. Donc c'est quand même un message fort, et je pense que le métier que font toutes nos équipes sur le terrain aujourd'hui, doit être reconnu en tant que tel.
Et pour vous, pourquoi est-ce qu'il y a un tel frein du côté des salariés, des syndicats salariés?
Bah, je pense que, comme vous l'avez dit, ils cherchent à résister, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils mettent autant d'argent sur la table. Ben si, c'est possible. Et après, je pense que voilà, notre accord, il était loin d'être parfait dans sa première version. Et c'est le dialogue qu'on a mené de façon assez intense quand même avec l'ensemble des syndicats depuis l'été dernier qui fait qu'on a pu améliorer cet accord. Et moi, les dernières discussions que j'ai pu avoir avec pas mal d'organisations syndicales, j'ai l'impression que j'espère.
Attends,
que, je suis certain qu'on se rapproche d'un accord. Je comprends qu'il y ait quelques réticences. Alors évidemment, il n'y aura plus 12% d'ancienneté au bout de 15 ans. Oui, ça n'existera plus. Mais en contrepartie, il y a une telle revalorisation des salaires, une capacité à progresser, qu'il faut encore qu'on continuera de construire dans le temps, parce que
c'est vrai qu'à plus de 15 ans, pour un fouet, on n'est qu'à 9% d'effectifs à plus de 15 ans.
Ouais.
Ça ne concerne pas la majorité des gens.
Ça ne concerne pas la majorité. Et d'ailleurs, c'est peut-être une caractéristique, alors je n'ai pas les statistiques d'autres branches, mais ça veut bien dire que quelque part, les gens qui font de la sécurité privée aujourd'hui, ils finissent par quitter notre métier pour faire autre chose. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ils s'en vont Et je me dis que peut-être que le niveau de rémunération qu'ils ont pour l'engagement qu'ils ont au quotidien, c'est évidemment une difficulté qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Voilà, je n'oublie pas ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire où tous les agents, ils étaient sur le terrain tous les jours. Hein, et ils ne sont pas posés de questions, et ils y étaient, ils faisaient partie de la deuxième ligne. Et on a tous regretté le fait que l'État n'ait pas suffisamment souligné à ce moment-là, mais ce qui confirme le niveau d'engagement de tous les collaborateurs.
L'État a demandé à toutes les entreprises de faire un effort de payer une prime à tous les agents. Mmh. Et c'est sûr que c'est plus simple avec l'argent des autres, on va dire,
de des choses. Moi, je vais être clair sur ce sujet-là. Beaucoup, je crois, d'entreprises de la branche ont fait cet effort, dans la mesure de leurs moyens. Et il faut bien se rendre compte on est dans un métier où les salaires, c'est de très 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 loin le principal poste de dépense des entreprises. Dans une entreprise de surveillance humaine, voilà, à peu près entre 80 et 90% des coûts de l'entreprise, c'est la masse salariale. Bon. Quand on est dans une entreprise industrielle ou d'un autre type, vous n'avez pas du tout ce rapport-là. La masse salariale, ça peut représenter 30, 40% des coûts d'une entreprise. Et donc quand vous dites je donne X centaines, milliers d'euros à tous mes collaborateurs, l'effet sur votre capacité à payer cette prime, il est complètement différent par rapport à la rentabilité de votre entreprise, etc. Donc c'est très compliqué dans nos métiers de dire tiens, tout d'un coup, on va donner des sommes significatives à l'ensemble de nos collaborateurs. Parce qu'on n'a juste pas les moyens de les payer, quoi. On ne peut pas faire cet effort-là. Donc c'est frustrant, parce que croyons-moi, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient envie de faire ce geste-là, parce que c'était aussi remercier l'ensemble des collaborateurs pour les efforts qu'ils ont fait pendant la crise sanitaire notamment, mais qui n'avaient juste pas les moyens de le faire. Même avec le fait que ce soit une prime dite, prime Macron, je crois que c'est pas le bon terme, avec tout le système de fiscalisation qu'il y avait derrière. Malgré tout, c'était quand même des sommes très très significatives au regard des résultats des entreprises.
Un démarche très faible de nos métiers.
Exactement.
De l'activité.
Exactement.
Bien d'accord. Enfin, moi, je pense que ça a été très clair pour moi. Je comprends mieux les tenants aboutissants de cet accord. Les points de blocage, qui ne me semblent pas inatteignables. Vous, enfin, autour de vous, les agents, les acteurs, ils sont plutôt favorables à cet accord ou il y a des freins?
Alors, moi, je vais parler de ce que je connais bien, c'est mon entreprise. Quand on en parle en interne, j'ai l'impression que tout le monde est plutôt partant. Mais et moi, je peux que suggérer à toutes les personnes concernées qui vont écouter ce blog d'aller sur le site du GUS où il y a les calculettes. Vous voyez, en trois clics, vous saurez, vous êtes dans tel métier repère aujourd'hui, à telle ancienneté, et sur une page très simple, vous pourrez voir quel est le salaire minimum de la branche, qu'elle pourrait prétendre demain dans le nouveau système. Et pour la plupart des personnes, vous verrez que cette hausse de salaire elle est quand même significative. Et sur certains métiers, très significative. Voilà, donc moi, je pense qu'on va se rendre bien compte de ça. voilà, et j'espère vraiment qu'on va arriver à un accord constructif avec les organisations syndicales. Voilà, j'ai l'impression que ces derniers jours, semaines, les choses évoluent dans le bon sens. On a fait déjà quelques corrections. Enfin, ça fait 6 mois qu'on fait évoluer
dans la négociation,
de façon plutôt positive cet accord. Il me semble qu'on est près de, on est assez près d'un, j'espère, d'un dénouement positif. Voilà, et je rappellerai peut-être à tout le monde, parce que je crois que c'est important aussi. On verra ce qui se passe donc le 10 mars et dans les jours qui suivent. Est-ce que ça sera signé 10 mars? Je ne sais pas, mais ça va se jouer en mars. Il ne faut pas oublier que derrière, une fois que cet accord est validé par l'ensemble des syndicats patronaux et salariés, il y a un délai dit techniquement délai d'extension, mais c'est le délai qu'a l'État pour valider notre accord. Et compte tenu de la complexité de cet accord, qui remet quand même beaucoup de choses en cours, il faut s'attendre à un délai d'à peu près 9 mois pour que l'État nous approuve l'accord. Ça veut dire que si on signe quelque chose en mars, normalement, au 1er janvier 2024, c'est applicable. Alors est-ce que ça sera en décembre 2023, en janvier 2024, c'est difficile à dire. Mais voilà, il faut quand même compter une période d'environ 9 mois pour qu'on puisse avoir une approbation définitive de cet accord.
Et en faisant retour vers le futur et que cet accord n'est pas signé, qu'est-ce qui se passe?
Ah ben là, on verra, mais...
Ça tombe tout à l'eau?
C'est-à-dire qu'on rate une très belle opportunité. Il faudra qu'on ait d'autres discussions, mais c'est clair que je vous assure que c'est pas forcément simple d'emmener tous les patrons de boîte vers cette décision. Si cet accord se signe pas, je pense que c'est un autre avenir.
Est-ce qu'on perd 5 ans? On perd 5 ans de...
On perd quelques années de discussion, c'est dommage. Mais surtout, on se met dans une position où je ne sais pas trop comment on va pouvoir reprendre des discussions pour revaloriser notre branche, en fait. Et c'est ça qui est important. Alors évidemment, tout le monde pourrait dire, ok, ils disent qu'ils ont fait en moyenne plus 10%, ils auraient pu faire plus 15. C'est sûr, on aurait pu faire plus 15, plus 20, plus 30, mais il y a un moment où la réalité économique nous rattrape. Et je crois que cet effort, en moyenne 10% pour les salariés, ce qui veut dire 15% pour le coût des entreprises, hein, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, et c'est une moyenne avec des écarts assez importants et des métiers qui sont très fortement revalorisés, je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir. Hein. Elle ne se représentera pas. Ça, c'est clair.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Luc Guillemin. Merci d'avoir été aussi franc et avec des échanges très pertinents. J'ai beaucoup apprécié.
Moi aussi. Voilà. Merci à vous.
Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur le blog de la sécurité privée.
Merci, au revoir.
Avant le prochain podcast, vous pourrez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. Toute l'équipe du blog 83 629 vous remercie. Et n'oubliez pas que le savoir, c'est le pouvoir. À très bientôt sur le podcast de la sécurité privée.